J'arrivais enfin à l'endroit repéré, mais point de barre rocheuse, seulement un éboulis et une grande dalle. Perplexe, je me retourne. Le grand rocher pointu, pris comme repère, est bien juste derrière moi, le cas de mort est bien juste un petit peu à droite. Je sais que des erreurs de perspective sont courantes dans ce type de paysage. Mais enfin, où est ce rocher qui tourne? J'inspecte le bas de la grande dalle, mais enfin, j'ai bien vu le berger entrer dans la paroi. Mon regard est attiré par une petite tache rouge entre deux cailloux. Je me penche et je ramasse une espèce de petit bout de tissu cramoisi, on dirait un bonnet phrygien, que je pose sur le bout de mes quatre doigts réunis, je l'ausculte sous toutes ses coutures. Ce qui me turlupinait lors de la découverte du squelette se confirmait, la tête était trop petite pour une tête d'enfant. Je regardais la dalle et son support. Du coup, je reconnus le rocher qui tourne sur lui-même, mais en miniature, au moins 5 fois plus petit que je ne l'avais imaginé. Dans le Nord, où j'ai officié de nombreuses années, ce genre de pierre est appelé les cailloux qui biquent. Ce n'était pas un berger que j'avais vu, mais bien un de ces êtres extraordinaires et légendaires, nommés ici fadés. On les appelle les petites gens ou le bon peuple, dans certaines régions on dit nos chers voisins. Les Indiens d'Amérique, Lenni Lenapi du New Jersey, les appellent Nan Apelsh, qui signifie littéralement « petit peuple de la forêt ». En Bretagne, on les appelle Bugal Annoz, les enfants de la nuit. Il faut dire qu'au cours de mes aventures aux quatre coins du monde, sans arrêt j'étais tombé sur des traces, des contes, des légendes sur eux. Est-ce que, maintenant pensionné, je vais boucler ma plus grande enquête? J'inspecte le rocher et je ne trouve pas son fonctionnement. Dans les Ardennes, on les appelle des Nutons, c'étaient des adeptes du commerce silencieux. Les Nutons étaient des nains, au teint basané, aux yeux noirs et vifs, à la mine éveillée et avenante. Ils ressemblaient, disait-on, à de petits vieux papas. Ils habitaient exclusivement les grottes et les trous dans les rochers. Ils ne se montraient que très rarement le jour. On les apercevait parfois, à la nuit tombante, près des broussailles, aux alentours de leurs trous. De temps à autre, à la belle saison, ils sortaient en ombre et se livraient à de joyeuses gambades sur l'herbe fleurie des prés. Ces êtres singuliers étaient d'excellents ouvriers en toute espèce de métier, forgerons, taillandiers, rémouleurs, ferblantiers, chaudronniers, tisserands, cordonniers et bien d'autres. Ils pouvaient, à la veille d'un orage, aider à la rentrée des récoltes menacées, mais il fallait les dédommager sans retard de leur peine. Les bons rapports entre Nutons et Campagnards cessèrent brusquement, ces derniers, il faut bien l'avouer, eurent tous les torts. À certains endroits, on pollua leurs aliments par pure méchanceté. Ailleurs, on obstrua l'entrée de leurs grottes, tant et si bien que les Nutons courroucés quittèrent le pays. J'étais perplexe. Comment entrer en contact avec ce petit peuple dont, plusieurs fois au cours de ma vie, j'avais eu l'impression de longer le monde sans pouvoir entrer en contact réel avec lui? Un genre de monde parallèle en quelque sorte. Maintenant que j'étais certaine de mon fait, je ne voulais absolument pas brusquer les choses. Je pris mes 3 pièces d'or, je les déposai en triangle et j'y ajoutai un carambar au milieu, créant ainsi, sans le vouloir, une figure ésotérique du plus bel effet. Très discrètement, je retournai sur mes pas jusqu'au col de Montmira. Passant par Florac, je décidai de m'arrêter à la gendarmerie où je demandai le maréchal des logis Merlin. Il vint me chercher à l'accueil et me conduisit dans son bureau. Il avait l'air soucieux, même très soucieux. « Bonjour, monsieur Soubeyran, la vie est pleine de surprises. Figurez-vous que notre grec de service, en fait, a débarqué il y a 4 ans, venant de Barcelone, où il était au monastère de Montserrat. Quant à ses revenus, dixit le service des impôts, il n'en déclare aucun, cela m'a l'air d'un drôle d'oiseau. Effectivement, vous avez raison, cela m'a l'air d'être un drôle de lascar. Je vais m'intéresser d'un peu plus près à cette personne intrigante, j'ai de très bons contacts à Montserrat. » Rentré à l'hôtel, je prends la décision de contacter mon ami Henri Roussillon, qui était mon double, mon frère, et qui avait pris sa retraite en même temps que moi. Il était parti s'installer à Barcelone, patrie de son épouse, docteur en histoire ancienne et religieuse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il m'invita à descendre jusque chez lui. « Ce sera un véritable bonheur, m'avoua-t-il. Je suis descendu à Montpellier, où j'ai pris le train dans cette gare à la Verrière Citris, destination Barcelone. Merveilleux, Henri m'attendait au buffet, où après deux ou trois tapas et une cerveza bien fraîche, il m'emmena chez lui, au village, les Cabanis. Tout de suite à table entre la poire et le fromage, j'expliquai à Inès le pourquoi de mes recherches et surtout que je cherchais des renseignements sur Vaianapoulos et son séjour dans les météores. C'est tard le soir, sous le chant des grillons qui s'en donnaient à tue-tête, qu'elle me raconta une épopée extraordinaire. Basile, moine de confession orthodoxe, avait vécu une vingtaine d'années dans un monastère des météores en Cappadoce. Il l'avait quitté en emportant une pièce très ancienne, un rouleau de cuivre, supposé contenir un rituel d'exorcisme. La seule chose dont elle était certaine, c'est qu'il était constitué de 5 chapitres, 5 exorcismes, gravés avec minutie en petits caractères, dans une langue totalement inconnue, mais divinement élégante. Le rouleau lui-même avait une histoire qui se perdait dans la nuit des temps. Le rouleau de cuivre était d'origine inconnue, mais manifestement très ancienne, puisqu'il avait été sorti d'Égypte lors de l'exode juif, puis perdu dans le désert, offert par Josué à un chef bédouin pour son hospitalité. Tout ce que l'on sait historiquement sur cet artefact, c'est qu'il apparaît dans les mains d'Omar Khayyam, le poète, mathématicien et astronome d'Ispahan, qui, au travers de ses quatrains, semble être un adepte du soufisme. Il le céda lors de son passage chez Hassan ibn al-Sabah, surnommé le vieux de la montagne, chef de la secte ismaélienne des Nizarites et plus connu pour être le grand maître de la secte des assassins. Puis il passa dans les mains de Saladin, sans qu'on sache dans quelles circonstances, pour terminer dans le giron de Baudouin le lépreux. Le rouleau entre en Europe avec le retour des Templiers et termine sa course chez Athanase, le fondateur du Grand Météore et de sa célèbre bibliothèque. Il fut étudié pendant plusieurs années, puis rangé et oublié. Ceci avait-il découvert la signification du rouleau? Inès ne put rien me dire de plus. Après 3 jours de pur bonheur, je quittai mes amis avec beaucoup de regrets et je retournai dans mes Cévennes. Tout le long du retour, surtout dans le train, je me demandais sincèrement comment j'allais mettre les pièces de puzzle en place. Tout ça me paraissait très compliqué. Pour l'instant, je dois attendre les résultats du légiste, mais je sens qu'il va y avoir du pain sur la planche. Et moi, qui imaginais une retraite paisible. Ma canne à pêche devait frétiller au fond du placard où je l'avais déposée, en attendant la sortie bucolique que je lui avais promise, un coin où les truites se pavanent en toute innocence et inconscientes du sort qui les attend. Il faut dire que ma canne et moi étions redoutables ensemble, ce qui arrivait rarement, mais je m'étais promis que cela allait changer. Lassé d'attendre, j'accélère le mouvement, j'appelle le légiste, il terminait juste son lugubre rapport. L'analyse ADN donne des résultats très troublants, même étonnants. Heureusement que ce sont des éléments que j'ai personnellement récupérés sur le terrain, sinon je n'y aurais pas cru. Le labo m'indique qu'il s'agit bien d'un être humain de petite taille, mais pas d'un enfant, il était même très vieux lors de son décès. Par contre, ce qui me trouble énormément et qui dans l'absolu est assez horrible, sa mort remonte à plusieurs siècles. Il ne s'agit pas vraiment d'un ADN humain, il s'agit d'une famille très proche d'Homo sapiens, très proche puisqu'il y a eu hybridation. Je vous conseille, me dit le légiste, de contacter le professeur Laport. C'est un anthropologue spécialisé sur les petites gens. Je raccroche et au même moment, le téléphone se remet à sonner, me faisant sursauter. Ici le professeur Laport. Le légiste de la gendarmerie m'a contacté hier soir pour me faire part de votre découverte. Serait-il possible de se voir ? Nous prenons rendez-vous pour le lendemain, en fin de journée, aux environs de 20h, chez lui, à Florac. Dès le lendemain matin, je demande à un de mes anciens inspecteurs de me dire tout ce qu'on sait sur un certain professeur Laport, anthropologue. Dans le courant de l'après-midi, j'apprends que le professeur est belge, diplômé de la faculté d'anthropologie de Liège, ethnologue diplômé d'Oxford et enfin membre de la prestigieuse American Folklore Society. Armé de ces quelques renseignements, je me rends chez lui. Accueil super sympa et tout de suite l'homme de science me met à l'aise en me servant un pur malt de 15 ans d'âge, un vrai nectar. Après lui avoir résumé les événements à sa demande, il entre dans le vif du sujet. on raconte que de nombreuses grottes étaient jadis habitées par des petits hommes, hauts tout au plus de 2 pieds, parlant une langue inconnue et d'un caractère tantôt serviable, tantôt farceur. Il paraît que jadis, on allait porter à l'entrée de ces grottes des objets à raccommoder. Il s'agissait ordinairement de souliers dans les légendes de la province de Liège, d'outils en fer dans celle de Namur, en ayant soin de déposer, avec ces objets, de la farine ou un petit gâteau ou des fruits, dans quelques villages on dit même une pièce de monnaie. Le lendemain, on retrouvait les objets remis en état. « Je vais vous narrer 2 historiettes qui nous les feront mieux comprendre », me dit le professeur Laport. Bien sûr, elles sont de chez moi, en province de Liège, mais ce sont les mêmes partout, du moins en Europe, où l'on rencontre ces petites gens. Ceci, d'ailleurs, date de la plus ancienne antiquité, puisqu'on a retrouvé dans certaines grottes des outils néolithiques de très petite taille, ce qu'on appelle communément des microlithes. Elles nous font comprendre la façon dont les hommes se moquaient d'eux, souvent pour se débarrasser de ses voisins devenus encombrants. Elles nous montrent aussi que les Nutons pouvaient avoir la rancune tenace, à juste titre, dirons-nous. Mais c'est peut-être de notre part du parti pris. La première est racontée par Aderuette. Depuis plusieurs semaines, un Nuton poursuivait de ses assiduités une jeune fille d'une famille respectable chez qui il se rendait à chaque soirée. Les parents, affectant l'amabilité, devaient lui céder un siège devant l'âtre. Le vendredi de la Saint-Martin, fête du village, on déposa soigneusement dans un grand panier toutes les coquilles d'œufs des Carterons utilisées pour la préparation des tartes. Les coquilles recueillies furent soigneusement disposées ensuite en plusieurs ronds bien ordonnés, concentriques par rapport à l'âtre, ainsi rendues inaccessibles, avec dans chacune un bout de brindille long de 2 pouces. Lorsque le nain se présenta pour gagner sa place habituelle, il resta interdit, puis il se dit « J'ai vu Bastogne au bois, mais je n'ai jamais vu tant de petits pots mélangeants. » Jamais on ne revit le Nuton. Cette courte historiette démontre 2 aspects intrigants du Nuton. Le premier est bien sûr sa taille, puisqu'il prend les coquilles d'œufs pour des pots avec louche. Le deuxième est son grand âge, puisqu'il dit avoir vu Bastogne au bois, forêt, alors que depuis très longtemps c'est un plateau dénudé, et Fréhir plein champ, donc couvert de champs plats, alors que Fréhir est depuis la plus haute antiquité une forêt de première grandeur. La seconde est plus scatologique et on la retrouve à quelques variantes près dans toute l'Europe romane. Elle est souvent polluée par des interférences avec la première, coquille 2. Nous avons choisi la version de Willy Lassence. Un Nuton allait chaque soir rendre visite à une jeune fille de Tenneville. Cette présence gênait la commère, mais elle ne savait comment se débarrasser de lui sans s'attirer la malédiction. Une vieille voisine, réputée macrale, sorcière, à qui elle s'en était ouverte, lui dit « Ma fille, rien de plus facile. Quand tu le verras venir, accroupis-toi sur le fumier dans l'attitude naturelle. Crois-moi, les Nutons sont gens fort bien élevés, il s'en ira dégoûté de toi à tout jamais. » La belle suivit le conseil et quand le Nuton la vit ainsi, il s'assombrit et tourna les talons en proférant la sentence traditionnelle « Nous avons vu Fréhir Champ et Mauchambois. » Mauchamp, village dépendant de Tenneville, est situé dans la forêt de Fréhir. Nous reverrons Fréhir Champ et Mauchambois. Avec le Nuton, disparurent le bonheur et la prospérité de la jeune fille et de sa famille. Comme vous pouvez le voir, ce petit peuple existe depuis longtemps. Nous croyons cette race humaine éteinte, mais votre découverte prouverait que ce n'est pas le cas. Une de leurs coutumes est de sortir au grand jour, une fois, au bout de plusieurs lustres, les ossements de leurs sages. Ils les étalent bien rangés au soleil, peut-être pour un genre de purification. Nous croyons également qu'il existe une association plus ou moins ésotérique qui protège ce petit peuple. Cela confirme bien mon hypothèse. Je remonte au col de Montmira, je vais jusqu'au rocher qui tourne, et comme je m'y attendais, le carambar était parti et remplacé par une 4e pièce d'or. Cette fois, j'ai déposé 3 carambars en triangle et je décidai de passer la nuit sur place. Je m'installe, confortablement assis dans l'herbe, adossé à un de ces petits menhirs. L'endroit choisi me permettait de très bien voir mon dépôt oratoire. Le ciel était d'un noir profond, dans cette nuit tout empreinte de douceur. Les étoiles par milliers donnaient un relief assourdissant. De temps à autre, une étoile tombait du firmament et venait voleter autour de moi avec son reflet un peu verdâtre. C'était une luciole. Un grincement léger me tira de ma somnolence. Un fadet habillé tout de vert sortit, inspecta l'offrande, puis, se tournant vers la garrigue, cria d'une voix fluette « Monsieur Soubeyran, je sais que vous êtes là. Montrez-vous et causons. » Très étonné, je m'approchai et je m'assis les jambes croisées devant lui. « Vous me connaissez ?»« Eh oui, nous avons un très bon service de renseignement. Il le faut bien pour vivre en votre compagnie, vous les grands. Mais avant de commencer nos palabres, goûtons ces énormes caramels mous que vous nous avez apportés. Au fait, voici 3 pièces d'or pour l'échange. » Je ne suis pas venu pour avoir 3 pièces d'or, mais bien, comme vous l'avez si gentiment proposé, pour causer. Oui, notre gardien de la vallée, M. Vaianopoulos, nous avait prévenu que vous aviez vu les ossements et que, étant policier, vous aviez informé qui de droit de votre découverte. Mais notre service intérieur m'a pris plus sur vous. Votre route avait déjà plusieurs fois croisé notre petit peuple, peut-être même sans le savoir. Comme la fois où vous avez démantelé un trafic de drogue en Guyane et où la cache se trouvait dans une de nos anciennes grottes. Vous avez été émerveillé par de minuscules outils néolithiques d'obsidienne. Les péons locaux vous ont même interdit d'en prélever quelques-uns, car pour eux, ces outils des ancêtres étaient évidemment sacrés. Je supputais une histoire extraordinaire, mais j'étais loin de penser vous rencontrer de cette façon un peu inopinée. Nous rencontrons souvent les grands et nous les choisissons en fonction de leur probité et de leur utilité. C'est peut-être une façon égoïste de percevoir les choses, mais la vie nous a appris à être très méfiants dans nos relations avec les grands. Mais je reconnais que les grands nous facilitent aujourd'hui bien la vie. Les ossements que vous avez trouvés dans la petite clairière sont les restes d'un de nos héros. Tous les 50 ans, ces ossements reprennent l'air. Ce héros s'appelait Glawan. Il était tombé dans les rochers et puis dans l'eau, dans une région loin de ce lieu. C'est un fermier local qui le sauva. Après une longue convalescence, on s'aperçut qu'il avait perdu la mémoire. Il fut donc adopté par le fermier. Lors du passage de la grande peste, toute la famille et une partie du village furent isolés au pied des rochers du Renard, lieu dit au bord de l'Ourthe, près de Barvaux, là-bas dans les Ardennes. Il y enterra tous les siens. Depuis cet événement, les rochers ont pris son nom et sont devenus les rochers de Glawan. Désespéré, il devint ermite et c'est ainsi que nous l'avons retrouvé, habitant une grotte des environs, qui fut nommée la grotte du Newton par les grands en souvenir de lui. Nous avons, nous, veillé sur ses vieux jours. Maintenant, c'est à votre tour d'être un de nos gardiens. Réfléchissez bien avant de refuser ou d'accepter. Si vous refusez, nous déménagerons de cet endroit, ce ne sera pas la première fois. À première vue, je n'y vois aucun inconvénient, maintenant que je suis revenu habiter le pays de mes pères. C'est même un de mes rêves secrets que de donner à une cause qui rencontre tellement mes désirs enfouis au plus profond de moi-même. Mais j'ai encore une question qui me turlupine. Pourquoi M. Vaianopoulos a-t-il dérobé le cylindre de cuivre dans la bibliothèque d'Athanase des Météores ? Ah, le cylindre de cuivre, je vois que vous êtes au courant et que votre instinct de chasseur vous a vite mis sur la piste. Ce cylindre est l'histoire fondatrice de notre race. À l'époque, nous n'avions pas encore essaimé sur les autres continents. Nous étions les survivants d'une catastrophe sidérale. Notre véhicule, dont nous n'avons plus aucun souvenir, s'est écrasé aux confins de l'Atlas, à l'époque où le Sahara était encore une gigantesque savane, splendide et giboyeuse, occupée en son centre par un énorme lac dont on ne voyait pas les extrémités. C'est là que nous avons fait connaissance d'un peuple d'agriculteurs que nous avons suivi dans ses pérégrinations, lequel, chassé par le climat devenu relativement aride, partit se réfugier dans la vallée du Nil. C'était un endroit paradisiaque au pied de la grande cataracte. C'est cet endroit que choisit Ptah, un de nos plus grands savants, pour faire graver sur une feuille de cuivre la mémoire de notre histoire. Cette feuille fut enroulée par souci de transport et de protection. Suite à une dispute qui remonte dans la nuit des temps, le pharaon de l'époque nous confisqua le rouleau et le rangea dans son trésor. C'est à cette occasion que nous décidâmes d'entrer dans une semi-clandestinité qui est devenue définitive au XVIe siècle. Voilà, monsieur Soubeyran, vous avez toutes les cartes en main et, croyez-moi, elles ne sont pas biseautées. C'est à vous, dans quelques jours, de prendre une décision importante pour vous et pour nous. Vous vous rendrez vite compte que cette situation n'a pas que des inconvénients. Après avoir quitté solennellement le fadet, qui se nommait Pratchett, je redescendis au village, repris la voiture et rentrai chez moi, où je me suis enfermé une journée entière, suivi d'une longue journée de pêche, puis, à nouveau, une journée de méditation. Le quatrième jour, je suis descendu à Alès chercher 3 kilos de carambars. Je savais maintenant à qui cela ferait plaisir.